L'actualité dans notre région avec un déconfinement en 4 dates.
Les Alpes du Sud se tiennent prêtes alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé son calendrier de déconfinement. 3 et 19 mai, 9 et 30 juin, voilà les 4 étapes pour un retour à la vie.
Coup d'envoi de la campagne des élections régionales en fanfare.
Renaud Muselier dépose plainte pour diffamation contre le conseiller régional du Rassemblement National élu dans les Hautes-Alpes, Amaury Navarane. Ce dernier lui reprochait un marché passé avec la société de Jérôme Lavrieux, celui qui avait révélé l'affaire Big Malion pour la promotion de la région.
Et comme pour le déconfinement, eh bien le pas de l'ours voit le bout du tunnel.
Ce chantier avait démarré en septembre 2018 dans le Queyra suite à un mouvement de terrain menaçant la départementale entre Abriès et Ristola. 30 millions d'euros, c'est le coût du chantier. La réouverture est prévue pour l'hiver.
Et malgré la crise sanitaire, eh bien sachez que l'artisanat a la cote en région PACA.
Et ce chiffre étonnant, plus 8%, c'est le nombre d'entreprises qui ont vu le jour depuis un an. En politique, quelle est la limite entre gouverner avec la droite et travailler avec elle? C'est Jean-Yves Roux qui la dessine. Le sénateur des Alpes-de-Provence et candidat sortant pour les départementales, s'il refuse une majorité arc-en-ciel comme celle de René Massette, il se voit bien prendre les bonnes idées venues de droite. Météo.
Oui, après une matinée sèche et même quelques petits passages ensoleillés, eh bien le temps se dégrade vers la mi-journée, les averses se multiplient l'après-midi. Les températures sur nos 2 départements, les maxis de 10 à 18 degrés. À la une de l'actualité, ça y est, 4 dates sont cochées sur le calendrier du déconfinement.
Emmanuel Macron s'est entretenu avec la presse quotidienne régionale pour dévoiler sa stratégie progressive de déconfinement avec donc 4 dates, vous l'avez dit, 3 mai, 19 mai, 9 et 30 juin. Le 3 mai, c'est la fin des restrictions de circulation et donc celle de l'attestation de déplacement au-delà des 10 km. Le couvre-feu reste par contre maintenu à 19h, car c'est à partir du 19 mai qu'il sera reculé à 21h. Avec un autre signal fort donné, les commerces pourront rouvrir à cette date avec des jauges et des protocoles adaptés, de même que les musées, cinémas et théâtres, dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Troisième date, le 9 juin, avec un couvre-feu reculé à 23h, la réouverture des salles de sport. Les restaurants et cafés pourront accueillir des clients, cette fois à l'intérieur, pas plus de 6 personnes à table toujours. Autre gros changement, c'est l'apparition du pass sanitaire qui regroupera un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat d'immunité. Le document sera obligatoire pour accéder à des grands événements culturels et sportifs. Dernière étape donc, le 30 juin, levée complète du couvre-feu, fin des jauges dans les établissements accueillant du public. Les boîtes de nuit restent par contre fermées. Toute notre région est prête à rouvrir, a immédiatement indiqué Renaud Muselier, le président de l'hémicycle marseillais. Un accompagnement va être mis en place avec les professionnels.
Renaud Muselier qui est donc candidat pour les régionales de juin prochain et c'est un coup d'envoi en fanfare pour la campagne.
Il annonce déposer plainte pour propagation de fausses nouvelles et diffamation à l'encontre d'Amaury Navarane. Le conseiller régional du Rassemblement National, élu dans les Hautes-Alpes, avait accusé sur les réseaux sociaux l'actuel président d'avoir passé un contrat à 100 000 euros avec son ami Jérôme Lavrieux pour la promotion forcée de Région Sud. Fin de citation. Jérôme Lavrieux, on le rappelle, ancien député européen, avait révélé l'affaire Big Malion. Désormais à la tête d'une société de consulting, il avait été retenu pour conseiller la communication de la marque Région Sud, un marché passé dans le strict respect des règles, selon Renaud Muselier, ajoutant qu'il n'a pas été activé. La société de Jérôme Lavrieux ne serait donc pas intervenue, aucune facture n'aurait été faite. La procureure de Marseille a donc été saisie par le candidat.
Dans le reste de l'actualité, elle a été retrouvée saine et sauve.
Une Gapençaise âgée de 55 ans a été portée disparue depuis mercredi soir. Un appel à témoins avait été lancé par la police des Hautes-Alpes. Finalement, alors que des recherches sur le terrain avaient été menées par les forces de l'ordre et les pompiers, la quinquagénaire s'était réfugiée au domicile d'une amie sur Gap. Elle était hier soir dans les locaux du commissariat de la ville.
Et c'est compliqué pour le golfe de Croc qui ne parvient pas à convaincre. Et ses opposants demandent la tenue d'un référendum.
Le projet d'un golf à 9 trous de 3 millions d'euros porté par la communauté de communes de Serponçon rencontre l'hostilité du collectif Sens pour Embrun. Ils considèrent que la tenue d'un référendum est nécessaire alors que ce golfe ne fait pas l'unanimité dans la population. Un référendum qui devrait se tenir selon ce collectif avec des réunions d'information publique au préalable pour mieux cerner les enjeux. Ce golfe devrait s'installer sur un terrain de 35 hectares. Notez qu'une telle proposition de référendum avait déjà été faite en 2009 auprès de la communauté de communes de Lambrunet à l'époque au sujet de la décision d'accorder une délégation de service public à l'entreprise Veolia. Elle avait été refusée à travers une délibération. Le pas de l'ours voit enfin le bout du tunnel. On entame là la dernière ligne droite de ce chantier démarré en septembre 2018. 30 millions d'euros, c'est le coût des travaux cofinancés par la région, l'État et le département. Et en toute vraisemblance, c'est dès l'automne prochain que le dernier coup de pelle sera donné pour une ouverture à la circulation dès l'hiver. Une réunion avait lieu hier entre le département et les conseils municipaux d'Abriès, Ristola et Aiguille, deux communes directement impactées par ce chantier. Avant de revégétaliser le site à l'automne, qui est la dernière étape, le point était l'occasion pour Marcel Cana, vice-président en charge des routes, de mettre l'accent sur trois axes importants lors de cette reprise des travaux.
Un accès au pâturage. Il y a beaucoup de transit et d'éleveurs qui montent avec des troupeaux ovins et bovins. Et c'était pour voir un petit peu comment on pouvait leur faciliter le passage cette année. Ensuite, on voulait faire un petit focus sur le plan du Malrif. C'est là aussi qu'il y a pas mal de matériaux qui sont déposés. On a la chance de pouvoir retraiter ces matériaux, c'est-à-dire ces 48 000 mètres cubes de matériaux qui vont être traités sur site, ce qui évite tout un transit de camions qui monterait, on peut dire, de la vallée de la Durance pour alimenter le chantier. C'est très écologique ce que nous allons faire et bien entendu, on évite la pollution. Et le dernier point qu'on voulait voir, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Nous avons démonté le téléski de Chabat sur place et nous allons voir comment remettre ce téléski en place, comment nous allons financer cette opération pour que quelque part ce qui était un petit peu l'image d'Aiguille soit remis sur place et soit mis un petit peu en lumière.
Pour rappel, le chantier du Pas de l'Ours a été initié à cause d'une montagne en mouvement qui menaçait la départementale 947 avec des éboulements massifs à répétition. À l'époque, une route de secours avait été créée pour ne pas isoler les 300 habitants de la vallée en retenant l'expérience du chantier du tunnel du Chambon à la frontière.
L'artisanat qui garde la côte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
À l'occasion de son rapport annuel, la Chambre des métiers de l'artisanat PACA a publié ce mercredi des chiffres étonnamment positifs pour l'année 2020, étant donné la crise sanitaire qui n'a épargné aucun secteur d'activité. Christophe Laurenceau.
Plus 8%, telle est l'augmentation du nombre d'entreprises artisanales entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Une hausse qui représente 13 771 entreprises de plus et qui reste dans la lignée de ces 5 dernières années. Même s'il est vrai que les aides massives de l'État peuvent atténuer l'importance de ces chiffres, cette tendance à la hausse est en effet une réalité avec depuis 2016 une augmentation de 36% du nombre d'entreprises artisanales. Selon la CMAR PACA, ce phénomène est en partie expliqué par la richesse des métiers qui existe dans cette filière. Sur les 184 907 sociétés artisanales à l'aube de l'année 2021, 41% sont dans le secteur du bâtiment, 35% dans les services, 13% dans la production et 11% dans l'alimentation. C'est notamment le secteur des services qui a connu la plus grosse croissance avec 10,9% d'entreprises en plus sur un an. Au niveau national, le bon état de santé de l'artisanat régional se confirme car la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pointe à la deuxième place des régions françaises en termes de densité artisanale juste derrière la Corse. En effet, on y dénombre 335 entreprises pour 10 000 habitants contre 230 en moyenne nationale. Pour conclure, bien que la majorité des artisans sont dans la partie méridionale de la région, l'analyse de la densité du tissu artisanal a permis de mettre en exergue l'importance de ce secteur d'activité sur les territoires alpins ainsi que l'arrière-pays varois. Avec ce dernier chiffre, 450 entreprises pour 10 000 habitants en milieu rural contre 354 en milieu urbain.
Merci Christophe. Notez finalement que l'artisanat reste bel et bien un métier majoritairement masculin car seulement un dirigeant sur cinq est une femme en région PACA.
Alors, où se situe la limite entre travailler avec la droite et gouverner avec elle? Eh bien, elle se situe au vice-président.
Alors que Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes-de-Provence et candidat sortant pour les départementales, il veut conduire son groupe TDSE, Territoire démocrate social et européen, aux commandes du département. Une démarche qu'il veut ouverte aux bonnes volontés et aux idées de tous bords, mais pas aux ambitions politiques. Ceux de droite qui soutiendraient la démarche ne se verraient pas offrir l'exécutif et les postes de vice-président. Une façon de se démarquer de l'actuel numéro 1 des Alpes-de-Provence, René Massette, qui gouverne depuis 2017 avec la droite.
Mais j'ai démontré que je pouvais aussi dépasser
je veux dire, mes convictions politiques et travailler avec la droite, parce qu'il y a aussi de bonnes idées dans la droite. Si demain j'ai la majorité au département, j'ouvrirai aussi à ce que des personnes, et j'écouterai toutes les personnes qui seront, volontaires. Je pourrais travailler avec des personnes de droite, mais peut-être qu'elles ne disposeront pas, elles ne seront pas dans l'exécutif du conseil départemental. Elles auront peut-être des délégations, mais elles n'auront pas l'accès au poste de vice-président. Mais je suis pas là à essayer de faire quelque chose qui est vraiment gauche, droite. Je suis plutôt essayer de récupérer des bonnes idées. Et les gens qui veulent travailler avec moi, je leur tendrai la main comme je leur ai tendu la main quand j'ai été sénateur.
Jean-Yves Roux veut placer des binômes sur au moins 50% des cantons des Alpes-de-Provence. Quant à la présidence du conseil départemental, il ne pourra y accéder sans avoir laissé derrière lui son poste de sénateur. Un nom est donc déjà pressenti dans son groupe, quelqu'un à la posture nationale. Mais de là à en savoir plus, il faudra encore attendre.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.